బాగా చేసుకుంది.
ఆడియోస్కోపీ మిషెల్ సాబు రక్షో.
Michel Sardou, vous êtes celui qui, dans une dizaine d'années, pourra écrire l'histoire d'une famille entièrement offerte au spectacle. Vous aurez pour cela le souvenir de votre père, trop tôt parti, et également le livre de votre mère. Car il est rare qu'une famille puisse s'accorder ainsi 100 ans de ouais. musical et de théâtre. Je veux dire qu'on peut chercher, ça n'arrive pas.
Oui, ça arrive chez les clowns, dans le cirque.
Vous êtes un peu des clowns, d'ailleurs.
Oui, on est un peu des clowns, d'ailleurs, et j'en suis très fier. Ça arrive dans ces familles-là, il y a Gabriello, peut-être, qui pourrait aussi...
Un grand-père, un arrière-grand-père.
Et ce qu'il y a d'assez rare, c'est que du côté de ma mère aussi, des deux côtés. C'est-à-dire, j'avais une grand-mère danseuse, une arrière-grand-mère danseuse aussi. Enfin, c'est assez rare, effectivement.
Alors, c'est le côté enfant de la balle, et on peut se demander, y aura-t-il une continuité?
Ben, je le souhaite, écoutez.
Oui, mais on prépare les enfants à devenir ce que vous êtes.
Oui, j'inocule le poison.
C'est vrai?
Je les emmène avec moi.
Vous seriez content?
Ah, j'en serais ravi, j'y tire beaucoup, et en plus j'ai la chance d'avoir deux filles et deux fils. J'aimerais bien que les filles s'y mettent un peu, parce que pour l'instant ça a été surtout dominé par les mâles, si j'ose dire. Ils ont plus réussi que les... J'ai une tante qui a monté un orchestre de femmes à Saïgon, bon, enfin, c'était plutôt marrant. À l'époque, il fallait avoir un certain culot.
C'est du compagnonnage.
Oui, il fallait avoir un certain culot pour faire ça. Mais j'aimerais bien que mes filles s'y mettent, j'aimerais bien avoir des chanteuses ou des comédiennes, j'aimerais beaucoup ça.
Donc vous ne pouviez pas, Michel Sardou, échapper à la tradition?
Non,
j'ai... J'avais même pas réfléchi.
Si, j'ai voulu être chirurgien à un moment donné, je me sentais doué pour l'anatomie, et puis finalement ça s'est vite arrêté, j'avais pas les capacités intellectuelles nécessaires, ni l'attention nécessaire pour tenir le coup, disons.
Vous avez fait des études normales quand même?
Oui, j'étais dans un collège suisse, j'ai fait les humanités, ce qui est l'équivalent du premier bac. Si vous voulez.
Vous ne regrettez pas aujourd'hui de ne pas avoir continué?
Non.
Alors, on vous regarde, Michel Sardou, on vous trouve dans un premier temps réservé et timide, et puis, comme vous voulez effacer cette réserve et cette timidité, vous vous donnez les allures d'un bagarreur et vous attaquez. Alors, je ne sais pas si j'ai raison.
C'est un peu vrai, j'ai une timidité agressive, une timidité qui me pousse. Je ne me replie pas sur moi-même, je prends sur moi et je fonce un peu. Alors j'ai un peu l'air bourru comme ça et je le cultive un peu d'ailleurs.
Non, vous êtes provocateur, vous vous allez amuser.
Provocateur, non.
Si, vous avez... Alors, lorsque je regarde par exemple ce point sur une affiche, au moment d'une campagne électorale, cela veut dire qu'on se met tout de suite dans un combat. Et vous avez raison d'ailleurs.
Alors,
il y a tellement de rigolos un peu partout que c'était bien quand même de s'affirmer.
Oui, mais alors très honnêtement, j'y ai pas pensé. En faisant la photo, c'était une photo de scène, c'était dans un... Je ne sais plus sur quelle chanson ça allait.
Qu'importe la chanson, c'est plus, le tempérament.
C'était un geste, c'était un tempérament. Ah non, mais genre, c'était pas lié avec les photos de la campagne électorale qui étaient fadasses, c'est vrai, mais bon, c'était pas lié avec ça, en fait. Provocateur, je crois pas. Fonceur, oui. Franc-parler, oui.
Bagarreur, oui.
Bagarreur, vous savez, je l'ai été un peu, mais je me suis fait tellement casser la gueule que je suis peut-être un peu moins. Bon, je suis pas très lourd, quand même.
Mais je crois que vous êtes comme tout le monde, mais simplement, on parle un tout petit peu plus de vous.
Oui.
Vous êtes tendre et coléreux, vous êtes sûr de vous, et surtout, mais effroyablement et parfois même dramatiquement angoissé. Alors, je me demande si aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre. Je vous regarde, il y a longtemps que je ne vous avais pas vu, je crois que oui.
Physiquement, ça va mieux.
Seulement physiquement?
Ben, je suis toujours angoissé. C'est-à-dire, je suis toujours... comment vous expliquer ça? J'ai toujours le sentiment que c'est un énorme coup de peau, que c'est quelque chose qui n'est pas solide, ma carrière n'est pas construite, ce que je fais n'est pas vraiment calculé. Je travaille plus d'instinct que intelligemment, si vous voulez. Alors, j'ai toujours l'impression d'avoir construit un énorme édifice sur quelque chose de pas très solide, sur un accident de parcours. Alors, comme je fais un métier assez contraire à mes aspirations à moi, bon, vous disiez tout à l'heure que j'étais timide, c'est vrai, j'aime pas la foule, c'est vrai aussi.
Sauf les foules de limite.
Sauf les foules de salles, si
c'est autre chose.
Si j'ose dire, mais c'est complètement différent. Mmh. Alors j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose qui va se dérober sous moi. Alors j'ai une inquiétude perpétuelle de ça, une angoisse de ça.
Vous iriez jusqu'à dire que le succès vous est venu par hasard?
Ah, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé, puisque c'est...
Un accident?
Ben oui, parce que c'était pas du tout prémédité. Je faisais une forme de chanson, bon, qui était... Quand j'ai débuté, je m'inspirais de ce qui existait déjà, comme d'ailleurs beaucoup de gens. Je faisais du sous-Brel, du sous-Béco, du sous-Aznavour. Je m'inspirais de tout ce qui était, bon, dans la chanson française, quelque chose. Et puis, bon, ça marchait pas du tout. J'avais pas de voix, j'avais pas le... véritablement le feu sacré pour la chanson, et un jour j'ai fait une chanson à contre-cœur qui était les bals populaires. Mmh. Je l'ai fait complètement à contre-cœur. J'ai une chanson accordéon en 1970 ou 69, je ne sais plus, ça, c'est complètement ridicule. C'est... Mes producteurs m'ont un peu violé pour faire cette chanson et la chanson a éclaté. Et de là j'ai eu une image très, très chanteur français, traditionnaliste, très, très populiste aussi. Alors, et c'est venu par hasard. En fait.
Aujourd'hui, vous faites du surbeco, du surbrel.
Ah, je fais du sardou. Je crois que je fais du sardou.
Du sardou.
Je crois que je fais du sardou. J'essaye, enfin, c'est prétentieux peut-être, mais je m'en fous. Je suis persuadé que je fais du sardou.
Puis vous êtes un peu prétentieux.
Mais il faut.
Il faut l'être dans ce métier.
Il faut l'être. Pas trop.
Narcissique.
Non, pas narcissique. Mais il faut quand même dire ce qu'on fait. Autrement, personne ne le dira pour vous.
Alors aujourd'hui, c'est le cap. Vous avez 35 ans et c'est le moment où, quand même, on peut atteindre une forme de sérénité ou au contraire devenir totalement fou.
Oui, alors je crois pas que je vais devenir complètement fou, totalement fou. Je vais garder un peu de folie, c'est certain.
Ah, si vous abandonnez la folie, vous perdez un peu de...
On perd complètement
de votre foi.
De toute façon, il faut être un peu fou quelque part pour faire ce qu'on fait. Quelque part, il faut avoir une petite fêlure. Un homme normal, je veux dire, bon, aller monter sur scène, ça viendrait pas à l'esprit de tout le monde. Je veux dire, ça vient pas aux gens, j'allais dire, équilibrés, normaux. Il faut être quelque part fêlé, il faut être quelque part un petit peu égocentrique, un petit peu avoir une petite maladie quelque part.
Vous devez aimer quelque part aussi que l'on ne vous aime pas, parce qu'il y a une partie de gens qui vont vers vous, et c'est bien la preuve, puisque les salles sont pleines. De l'autre côté, vous êtes souvent très attaqué, et il y a une forme de coquetterie chez vous à vouloir être comme ça, agressé.
J'irais peut-être pas jusque-là, agresser peut-être pas, mais je trouve ça un petit peu nécessaire qu'on fasse pas l'unanimité, c'est complètement normal. Ce qui m'ennuierait, c'est que personne parle de moi, que tout le monde s'en foute, ça je serais vexé terriblement. Mais que quelqu'un se donne la peine de passer une heure ou deux dans une émission ou dans la vie pour dire du mal de moi, je suis très flatté à la limite. Je trouve quand même...
Oui, même si on vous insulte.
Oui, ça veut dire que quand même, je les emmerde. Donc, si je les emmerde, j'existe. Autrement, ils n'en parleraient pas. Alors, je suis pas toujours d'accord avec les reproches qu'on me fait. Mais enfin, d'un autre côté, c'est vrai que bon, ça prouve que je laisse pas indifférent quelque part et que mon but est atteint, en fait.
Vous êtes un peu Machiavel, d'une certaine manière.
Oui.
Hein? C'est le prince, quoi. C'est la soif d'acquérir.
Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Moins que ça. La soif d'acquérir, je crois pas, parce que je suis trop feignant pour ça. Quelque part, j'en ai marre vite fait. Les choses me fatiguent vite. Je ne fais pas trop d'efforts, quand même.
Vous savez, lorsqu'on dit la soif d'acquérir, dans le même temps, on dit l'impossibilité d'atteindre.
L'impossibilité d'atteindre, oui.
Alors, il y a un but, quand même, quelque part.
Il y a un but, et c'est ça que je me demande. Je me demande quelquefois quel est le mien.
Parce que j'ai vu l'inquiétude tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est bien de ne pas être sûr de soi. Ça, c'est formidable.
Mais je ne sais pas mon but, en fait. Je ne sais pas, parce que ce que je fais ne me convient jamais. Alors, c'est un peu idiot. D'ailleurs, j'ai jamais pensé vraiment, je me suis jamais analysé vraiment, mais ce que je fais ne me convient jamais. Je suis jamais pleinement satisfait, que ce soit d'une chanson, que ce soit de ma gueule, que ce soit d'un disque, d'un spectacle, enfin, peu importe, de la connaissance de quelqu'un. Je suis jamais pleinement satisfait. Je me dis, par là, j'ai réussi un truc formidable, je peux dormir 3 jours, je peux prendre la grosse tête pendant 48 heures, puis parler à ma bonne. Enfin, je me dis pas ça. Je suis toujours insatisfait. J'ai envie toujours de faire un truc différent. Mon rêve, ce serait, sans l'abandonner, de faire autre chose que de la chanson, tout en restant artistique.
Quoi ?
Je ne sais pas, du cinéma, du théâtre, faire quelque chose...
Mais il y a des chances, et vous ne les prenez pas, ces chances.
Il y en a eu une maintenant, qui se présente, en plus c'est un défi.
Alors qui ?
Avec, ce serait l'adaptation d'une nouvelle de Bulgakov, Cœur de chien, et ce serait Petrovic, Alexandre Petrovic.
Ah, j'ai rencontré des Tziganes heureux,
oui. Alors ça, il en est très fortement question en ce moment pour la rentrée. Alors je vais peut-être le signer cette semaine, bon, c'est en train de se faire, disons. Alors là, je suis complètement emballé, parce que je vais faire un truc sur lequel on ne m'attend pas du tout, où je ne suis pas préparé.
Sinon, on vous attendra
beaucoup. On m'attend beaucoup, mais enfin, disons, je ne suis pas préparé du tout, je ne suis pas au point, je vais travailler avec un type que je ne connais pas, que je n'ai pas forcément aimé, qui va me faire le chien. Bon, c'est pas évident, a priori. Ça me passionne. Puis je suis sûr qu'une fois que j'aurai tourné le film, j'irai le cinéma, ça m'emmerde. Je passerai à autre chose.
Oui, vous dites cela, Michel Sardou, parce que du côté de la chanson, vous avez fait un chemin, que vous avez quand même conduit assez bien votre itinéraire, et que maintenant vous voudriez prouver autre chose. Mais êtes-vous bon comédien ?
J'en sais rien.
Votre père vous disait quoi ?
Bah, mon père, il m'a toujours, si j'ose dire, mon père...
C'est un personnage considérable, Fernand.
Mon père, au départ, j'ai toujours fait, en fait, la vérité, c'est que j'ai fait ce métier-là plus pour épater mon père,
ouais,
en fait, que pour faire un métier décidé, parce que j'ai jamais décidé d'être chanteur. j'ai décidé d'être dans ce métier-là, mais c'était plus dans le théâtre que je pensais aller, disons. Là, bon, j'ai fait la variété parce que c'est la vie, parce que ça s'est passé comme ça, puis c'est trop long à expliquer, puis pas intéressant, ça s'est passé comme ça. Et mon père, au départ, m'a regardé un peu comme un martien. Il m'a dit, ce petit, il fait ça, mais il est fada, il n'a pas de voix. Enfin, c'est vrai que j'avais une voix dégueulasse, je travaillais pas ma voix. Et finalement, je lui ai quand même prouvé, et petit à petit, j'ai pris goût. Et je savais qu'il était dans la salle. Et je mettais un point d'honneur à lui enfiler plein la gueule quand il était dans la salle, à le surprendre même par le matériel, parce que lui, il faisait ce métier-là, c'était très simple, le métier d'artiste du temps de mon père. Maintenant, c'est très compliqué, on a des accessoires de plus en plus coûteux, de plus en plus la technologie devient presque la NASA maintenant pour faire un gala.
Il n'y a plus de bruit que de voix.
Oui, il y a plus de choses, bon, il y a plus d'éclairage, il y a plus de lumière que de chaleur, disons. Bref, mais ça me faisait plaisir de l'impressionner comme ça. Alors, j'allais très loin dans ce jeu-là avec lui. Mais si vous voulez, il ne m'a jamais jugé. Il ne m'a jamais aidé. Il ne m'a jamais conseillé. La seule chose peut-être qu'il me disait, c'était d'être sincère, c'est tout. D'être sincère avec moi sur scène. D'en faire beaucoup s'il fallait. C'est pas honteux de charger du moment où on le fait avec plaisir. Bon, voilà. C'est le seul conseil qu'il ait pu me donner.
Oui, c'est vrai, Michel Sardou, que votre voix a trouvé un climat, parce que au début, vous l'avez cherché. Hein.
Oui, j'avais la voix du Gaufret au départ.
On se demande pourquoi vous veniez dans ce métier, d'ailleurs.
Oui, j'avais pas de voix du tout, et puis c'est venu...
Il fallait être culotté avec une voix.
Oui, complètement.
Alors, donc, cela veut dire qu'on peut préparer une voix.
Oh, ça se fabrique complètement, ça s'apprend complètement.
Quels espoirs pour ceux qui vous écoutent.
Oui, mais il faut donner la peine, il faut avoir la chance de tomber sur un bon prof, ce qui n'est pas évident. Il y a beaucoup d'escrocs là-dedans. Pour les gens qui vous apprennent à chanter, il y en a un maximum, mais il y a heureusement quelques vrais profs de chant. Mais on n'apprend pas à chanter, on apprend à respirer, c'est tout.
Il y a autre chose, Michel Sardou, qui est d'importance, comme beaucoup d'autres, et tant mieux, vous avez épousé les mouvements du monde, vous avez exprimé, et peut-être plus fort que beaucoup d'autres, certains états d'âme, vous avez même réagi politiquement. Alors moi, je voudrais savoir à quoi êtes-vous fidèle aujourd'hui ?
Aujourd'hui ?
Oui, il y a eu à un certain moment ce qu'on pourrait appeler, parce que vous savez, on n'en finit pas de se perdre dans les étiquettes, la droite, la gauche, on ne sait plus d'ailleurs. Oui. Alors, vous êtes fidèle à quelqu'un, à quelque chose, à une idée, à un avenir, à une peur ?
J'ai pas peur, mais je comment vous dire, j'ai pas de chef. Je me sens pas, je me vois pas demain m'enroulant dans un parti, à l'heure actuelle. J'ai pas d'homme qui me... J'entends des hommes qui me parlent un langage que j'ai toujours entendu depuis que je suis gosse, finalement. J'ai l'impression que tout ce qu'on me raconte, et c'est pas, je ne mets pas en cause les hommes, ni leurs sentiments d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui va faire l'avenir de mon fils. J'ai l'impression qu'on est encore le branché complètement sur le début du siècle, et que depuis il s'est passé beaucoup de choses. Bon, c'est un bateau, j'ai dit bien sûr tout le monde le sait ça, mais disons, je vois pas un chef. Je me vois pas embrigadé derrière Chirac, je me vois pas embrigadé derrière Mitterrand. J'aurais peut-être marché un peu derrière Rocard, peut-être. C'est peut-être le seul, mais un peu.
Alors vous rêvez, quoi.
Un peu, alors j'annonce. Je vote
demain, ça peut venir.
Je vote pas, je m'en fous. À vrai dire, ça me concerne pas, personne m'emmerde, personne me dit rien, je fais mon métier librement. Je veux dire, personne n'est venu. Personne me dit, tu sais, maintenant ça a changé, tu vas avoir des problèmes, au contraire, tout va très bien.
Mais tout va très bien parce que vous vous taisez. Lorsque vous parliez, ça n'allait pas bien, parce qu'il y a eu, à votre endroit, quand même des mouvements de violence assez excessifs.
Oui, mais
rappelez-vous, lorsque vous étiez interdit, c'était en Belgique, non ?
Oui, c'était pas interdit, c'était des mouvements, c'était un peu différent, c'était très con, ça. C'était même pas sur une idée politique, j'ose dire, j'avais des gens qui venaient me voir, qui me disaient, vous chantez les vieux mariés, c'est une position sexiste, la femme est bonne qu'à faire des enfants, alors ça, je tombais sur des cons, je me fous de mes positions dans une chanson, j'ai pas de position dans une chanson, j'écris un sujet, qu'on m'attaque sur les ricains, oui, parce que là, c'est vrai que j'avais pris une position, mais enfin, sur les vieux mariés, que les ricains sont venus en 44, mais... Je veux dire, j'ai pas le sentiment d'avoir défendu une idée politique. C'était pas mon but, je veux dire. Alors j'avais une certaine façon de vivre. Oui, j'ai toujours dit que je préfère passer mes vacances à Los Angeles qu'à Bratislava. C'est vrai. Mais je vais pas plus loin que ça. Je veux dire, c'est le reste, je m'en fous. Je suis ni justicier, ni... J'ai pas la vérité, de toute façon. Je détiens rien. J'ai pas de solution. J'ai même pas de proposition.
Nationaliste quand même. Cocardier, par exemple, le France.
Ah bah le France, écoutez, alors franchement, comme ça s'est fait le France, je suis pas cocardier. Je trouve complètement con que des gens... Que des Norvégiens aient trouvé le moyen de l'amortir et pas les Français. Pourquoi on n'a pas trouvé le même moyen? Il tourne, le France, il roule. Bon, peut-être pas comme avant.
C'est vrai qu'il est loin, et on dit, lorsqu'il passe, c'est le Nord-Ouest, mais il s'appelait le France.
Oui, il s'appelait le France, bien sûr, tout le monde va encore le voir. On a trouvé le moyen, j'ai trouvé ça ridicule de le laisser tomber, c'est tout. On pouvait trouver une solution, c'est... Bon, enfin ça, c'était mon point de vue. Alors, c'est nationaliste, oui, c'est cocardier, oui, c'est pas... En fait, on a de bons trucs en France, et je trouve con qu'on fasse un complexe devant l'univers entier.
Non, aujourd'hui, vous avez cette sérénité, mais lorsqu'on parlait de vous, lorsqu'on disait ce fasciste, c'est... je veux dire qu'on en parlait
ça, c'est
un peu n'importe comment.
Ça me foutait en colère.
Vous ne pouvez pas dire que ça ne vous faisait pas mal aujourd'hui.
Ça me faisait mal, ça me faisait même très mal, et ça me mettait très en colère parce que fasciste a une résonance bien précise à désigne des hommes bien particuliers. Et là, je me disais quand même non, je ne suis pas ces hommes-là, je ne suis pas comme ces gens-là, je ne suis pas, j'ai pas du tout cet esprit-là. J'ai un esprit français normal, gaulois normal, chauvin normal. Mais enfin, je veux dire, je suis pas un excité, je suis pas un fanatique, je ne suis pas un méchant au point comme ces gens-là, moi, je voulais me faire passer. C'était quand même exagéré, ça envoyait le bouchon très loin quand même.
Et puis vous avez une élégance tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'à chaque moment vous êtes contre les pouvoirs, le pouvoir.
C'est ça, en plus à chaque fois je me
démerde. C'est la seule manière d'être en bonne santé d'ailleurs.
C'est une façon de durer d'ailleurs.
Alors Michel Sardou, vous êtes un chanteur populaire, mais vous ne vous voulez pas, ou vous n'êtes pas à la mode. Par exemple, vous n'êtes pas entouré de rockers.
Non.
Je veux dire que le rock est vraiment un rythme qui nous vient d'ailleurs. Et moi, c'est un sentiment personnel, je pense que les Français ne sont pas doués pour lui.
Ah, j'en suis convaincu aussi.
Non, mais quand même, on peut essayer. On peut épouser une mode. Vous, non. Donc, vous restez dans une forme de conformisme.
C'est ça, je suis complètement... De toute façon, c'est pas du conformisme. Je suis imperméable à toutes les...
Rétro.
À tout. Non, pas du tout. Il faut se calmer. Pas du tout comme ça. Je suis imperméable à tout. J'ai été écouter de la musique brésilienne. J'étais au Brésil. J'ai dit peut-être que ça va m'inspirer quelque chose. J'ai écouté pendant des jours et des jours de la musique brésilienne. Je suis revenu et j'ai écrit la Java de Broadway, ce qui n'a strictement rien à voir avec la... Je suis imperméable au mode. C'est-à-dire, je m'en fous. Mais cela dit, j'aime bien. J'aime bien le rock'n'roll. J'aime le rock'n'roll américain. J'aime le country western, je ne passe que des listes country western chez moi, mais je n'en fais pas. Je ne sais pas l'écrire, ça ne me vient pas à l'esprit et je trouve que j'ai l'air ridicule quand j'en fais. Alors je chante dans ma salle de bain, c'est parfait, je m'éclate, je me trouve très bien, mais je le sors pas en disque, si vous voulez.
Est-il normal que vous ayez eu ce succès, que vous ayez toujours ce succès? Vous vous étonnez aujourd'hui ou vous vous dites, non, simplement, c'est du travail et puis je le méritais? Cela ressemblerait un peu...
comme question, ça.
Ah oui.
Parce que d'un côté, je trouve ça miraculeux. Et puis il y a des gens pour moi qui analysent les chansons. Alors moi je les analyse pas, je trouve que, je sais pas si c'est mérité, à mes yeux c'est mérité, parce que j'ai travaillé pour le faire, bon je l'ai pas volé, mes chansons je les fais, je les construis. Je trouve ça quand même un peu miraculeux, j'ai quand même une étoile au-dessus de ma tête qui me protège bien, enfin j'ai l'impression.
Et vous vous protégez de tout en ce moment, même de vos amis peut-être?
Mes amis surtout, en ce moment particulièrement. Mais disons que mes chansons sont bien foutues, voilà. Voilà, maintenant je le dis, et puis merde, mes chansons sont bien ficelées. C'est-à-dire, j'essaye de faire des chansons qui partent d'un point, qui vont à un autre, je raconte des histoires. Bon, je regarde pas mon nombril, je me déchire pas dans les nimbes de mon subconscient, j'écris des histoires. Et je crois que c'est un petit peu comme le système cinéma. On aime un cinéma populaire où il y a une histoire, où il y a, je pense, quand je fais une chanson, je pense toujours un petit peu à des images, pour que les gens aient des images qui passent dans leur tête, que ça rappelle quelque chose. Alors, c'est une façon de travailler, on peut me dire, oui, mais ça m'emmerde, bon, j'élucubre pas, si vous voulez, j'essaye d'être efficace, voilà.
Alors, il y a justement ces chansons, et il y a peut-être même une évolution dans ce que vous faites. Alors, L'autre femme, c'est une nouvelle chanson, vous la considérez comment ?
Ah ça, je l'aime bien, celle-là. Je l'aime bien parce que elle traite d'un sujet qui est un petit peu emmerdant en chanson, parce que ça traite des putes, donc c'est pas élégant, c'est un mot difficile à dire.
Les mots vrais.
Oui, c'est des mots vrais. Ouais. Bon, c'est pas élégant quand même. Dans une chanson, c'est dur à faire passer, même si on met des gants, même si on l'entoure de beaucoup de choses. Et là, on est arrivé, je crois, à bien le faire passer. C'est à la fois pas non plus, on s'aplatit pas, on n'en fait pas trop. Moi, je trouve que c'est bien foutu. J'aime beaucoup cette chanson.
Alors, je voudrais quand même vous poser une question. Lorsqu'on parle avec vous, et lorsqu'on est ensemble, comme ça, dans un lieu privilégié, qu'il n'y a pas de monde, vous ne dites jamais merde, vous ne dites jamais con. Et puis vous le lancez là. C'est encore une provocation ou c'est une
manière... Non, vous me demandez de parler d'une chanson.
Non, je parle de la conversation.
J'ai dit merde et con là.
Oui, souvent.
Ah,
non, mais ça fait partie d'une conversation.
Alors. Oui, bah, c'est parce que je suis grossier, alors, tout simplement.
Mais le principal, c'est de ne pas être vulgaire.
Voilà.
L'autre femme.